Marc-Antoine Collard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste et responsable de la recherche économique chez Rothschild et Compagnie Gestion. On va parler avec vous de perspectives économiques, hein, avec ce qui a inquiété les marchés au cours de ce début d'année 2016, la croissance chinoise. Comment on l'aborde aujourd'hui, cette croissance chinoise? Les marchés ont toujours été focalisés depuis plusieurs mois sur ce que faisait la Chine, sur les matières premières, sur un certain nombre de données. Ça reste au cœur de l'économie mondiale?
Alors, pour moi, la Chine, il y a deux défis principaux pour l'économie chinoise. Donc, le premier, c'est cette modification du modèle où on a les autorités qui veulent, ils l'ont redit encore une fois il y a quelques jours avec le nouveau plan, où on veut avoir un modèle beaucoup moins basé sur l'investissement et sur le gain de part de marché dans le commerce mondial, vers un modèle plutôt, je dirais, à l'occidental, avec un secteur des services beaucoup plus important et avec un poids de la consommation également davantage important. Et donc, cette modification du modèle, ça, c'est un premier défi. Évidemment, ce sera avec beaucoup d'incertitudes et de complexité. Et le deuxième défi, et qui n'est pas, je dirais, unique à la Chine, est lié au fait que l'économie chinoise, comme la majorité des pays émergents, au cours des dernières années, et plus spécifiquement depuis 2008-2009, on a eu une forte augmentation de l'endettement du secteur privé, et ça représente un défi important. Et dans la littérature, c'est vrai qu'il n'y a pas nécessairement de consensus à savoir à partir de quel niveau de dette ça devient problématique. En revanche, on sait que lorsque le crédit sur PIB augmente de façon importante sur une courte période, les données historiques nous montrent que la probabilité d'avoir un stress important dans le secteur bancaire ou financier, cette probabilité, eh bien, elle augmente. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, la Banque de règlement internationaux, la BRI, a publié son étude trimestrielle qui souligne justement le fait que la dette dans les pays émergents, dans leur globalité, évidemment il y a quelques exceptions, mais dans leur globalité, la dette a beaucoup augmenté et donc pourrait déboucher sur l'année 2016-2017 sur des problématiques dans les secteurs bancaires et financiers de ces pays. D'autant plus que une partie importante de cette augmentation de l'endettement s'est faite en monnaie étrangère. Et donc, pour donner un exemple, hein, vous avez une entreprise brésilienne, hein, qui s'est endettée en dollars. Donc, au fur et à mesure que le real brésilien se déprécie, le service de cette dette devient de plus en plus lourd.
Donc on a un impact concret de ces guerres des devises qu'on a pu voir.
Exactement, exactement. Et donc, depuis plusieurs trimestres, on a cette dépréciation des monnaies émergentes qui rend justement cet endettement qu'on a connu au cours des dernières années encore plus problématique. Et donc, encore une fois, c'est pas uniquement la Chine, hein, c'est
C'est
vraiment.
voilà, les pays émergents,
Exactement.
chacun avec le pétrole, avec les devises, des sujets à régler, donc il y a peut-être moins de visibilité sur ces pays-là.
Tout à fait. Et la particularité maintenant, comparativement, hein, parce que souvent on fait le parallèle avec la crise asiatique de la fin des années 90, alors pour moi, la comparaison, les conclusions qu'on peut en tirer sont très limitées parce que entre ce qu'on a vécu à la fin des années 90 avec la crise asiatique et aujourd'hui, le monde a complètement changé. On a eu ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les liens commerciaux sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient, d'une part, et d'autre part, les liens bancaires et financiers sont également beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient. Et d'ailleurs, depuis 2008-2009, cet endettement dans les pays émergents, on est passé d'un ratio de crédit du secteur privé à 60% du PIB. Aujourd'hui, on est plutôt à 120. Donc, on a doublé l'endettement dans les pays émergents du secteur privé. Cet endettement a été permis justement par les entreprises, les institutions financières des pays développés qui ont financé cette augmentation de l'endettement. Et donc on voit bien les canaux de transmission qu'on peut avoir entre les émergents qui sont dans une période qui reste compliquée, qui sont en fin de cycle du crédit et qui devront, de gré ou de force, commencer tôt ou tard un désendettement, le deleveraging. Et donc, dans ce contexte, je pense que c'est un contexte qui est très peu propice à avoir des taux de croissance très, très favorables.
Ou ceux qu'on avait connus au cours des dernières années, il faudra s'habituer peut-être à d'autres croissances. Les banques centrales, dans ce contexte-là, elles ont chacune leur stratégie. On voit ce qu'a fait la Fed, elle a commencé à monter ses taux. On s'interroge maintenant savoir si elle va continuer. La BCE a dit qu'elle allait en faire plus. On voit aussi ce que fait la Banque du Japon. Est-ce qu'il n'y a pas des divergences aussi qui se mettent en place sur le plan mondial et qui peuvent créer des risques ?
Je pense que le risque aujourd'hui, il est du fait qu'on arrive un peu à la fin de ce que les banques centrales peuvent faire pour soutenir la croissance économique mondiale. Après la grande récession de 2008-2009, la Fed et d'autres banques centrales ont innové avec justement ces programmes d'assouplissement quantitatif qui ont eu, je pense, des effets positifs, notamment en diminuant les taux d'intérêt avec donc un impact sur tous les taux d'intérêt de marché pour les consommateurs et pour les entreprises et pour les gouvernements. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette politique de taux directeur négatif, on entre dans une zone d'incertitude qui est très grande. Et je pense que le fait d'avoir un taux de dépôt de moins 20 points de base et de l'amener à moins 40, probablement que les effets ne sont pas symétriques, en ce sens où les effets négatifs qu'on pourrait avoir à moins 20, lorsqu'on passe à moins 40, c'est probablement deux fois, plus que deux fois. C'est vrai que ce soit la Banque du Japon ou même la BCE, qui, comme vous l'avez mentionné, qui va annoncer probablement une autre baisse du taux de dépôt, c'est vrai qu'on entre dans une zone d'incertitude avec des effets des effets incertains sur notamment le système bancaire de ces pays.
Ça veut dire que toujours pour ces investisseurs, finalement, ils voient que sur la partie macroéconomique, il y a toujours ce manque de visibilité, en tout cas sur ce début d'année 2016. Donc, ils vont aller se focaliser sur la situation des entreprises. Et de ce côté-là, entreprises américaines, entreprises européennes, est-ce qu'elles s'en sortent? Parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant après la crise en termes de solvabilité.
Pour les entreprises, si on part de l'hypothèse que les entreprises, le cycle macroéconomique a un effet sur le cycle des entreprises, le cycle économique en 2015 a été un peu moins porteur qu'en 2014. Et là, pour 2016 et 2017, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la Commission européenne il y a quelques semaines, tous s'attendent à une réaccélération légère, mais une réaccélération de la croissance économique en 2016-2017. Et je pense que le risque, il est là, étant donné ce que l'on vient de discuter, c'est-à-dire des émergents, de leur impact sur les pays développés via les canaux de commerce, mais également les canaux bancaires et de confiance. Je pense que ça pourrait être très compliqué d'avoir une amélioration de la croissance en 2016 par rapport à 2015. Et donc, en ce sens, je pense que ce sera une année, encore une fois, avec des défis importants pour les entreprises, parce que la macro derrière, on ne parle pas de récession mondiale, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a cette déception, c'est-à-dire on commence l'année en se disant voilà, cette année, on aura enfin cette accélération, et on termine l'année en se disant eh bien non, on a eu encore une décélération qui reste graduelle, ceci dit, mais cette décélération, et ce, encore une fois, si on revient aux banques centrales, et ce, malgré ces politiques accommodantes de la grande majorité des principales banques centrales. Donc, c'est vrai qu'il y a un facteur d'incertitude important sur l'efficacité justement de ces banques centrales, de leurs programmes, et de se dire peut-être que le milliard marginal qui est injecté est de moins en moins efficace par rapport au premier programme. Et on en arrive donc à une situation où, on l'a évoqué brièvement au dernier G20, si les banques centrales ont épuisé leurs ressources, c'est peut-être au gouvernement de prendre le relais et d'essayer de soutenir la croissance, parce qu'encore une fois, on voit que du côté des entreprises, pour ce qui est de l'investissement, ça reste difficile et la reprise du crédit dans les pays développés reste embryonnaire, notamment en zone euro. Et donc on voit vraiment le décalage du cycle de crédit dans les pays émergents où on est vraiment en phase finale et on devra commencer à se désendetter par rapport à la zone euro où on est au tout début du cycle, mais qui malheureusement pourrait faire en sorte que ce décalage pénalise notamment la zone euro ou les pays développés au fur et à mesure, parce que les fondamentaux de macroéconomique de la zone euro sont plutôt bons, en ce sens où on a une baisse du chômage, la création d'emplois a pris un peu de vigueur, mais malheureusement tout ça intervient alors que par ailleurs on a justement cette décélération dans des partenaires commerciaux importants.
Donc, eh bien, on suivra cette partie-là, donc encore beaucoup de doutes sur ses perspectives économiques. Merci, Marc-Antoine Colin.
Merci.